Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christophe Dickès.
Bonjour à toutes et à tous, merci d'être à l'écoute de Canal Académie. À plusieurs reprises, dans une série de portraits et d'éphémérides, l'émission Un jour dans l'histoire a souhaité vous présenter quelques grandes figures qui ont fait l'histoire de la conquête du Nouveau Monde. Hernán Cortés, Isabelle la Catholique, Christophe Colomb, bien sûr, mais aussi des personnalités moins connues comme le dernier empereur aztèque, Montezuma. L'histoire des grandes découvertes, cependant, ne peut se limiter à ce que nous appelons aujourd'hui les Amériques. En effet, au XIVe siècle, l'Afrique était quasiment inconnue de l'Europe. Des mythes et des légendes circulaient sur les terres au-delà du Sahara. Le Cap de Bonne-Espérance en Afrique du Sud avait pour nom Cap Borador, c'est-à-dire là où l'eau se met à bouillir, en référence bien évidemment aux enfers. Les peurs médiévales faisaient de ces contrées des zones infranchissables et infréquentables, peuplées par des hommes dont, je cite, « le sang est brûlé par la grande chaleur du soleil et par le souffle du vent du sud-ouest, le plus chaud des vents », nous prévient un chroniqueur de l'époque. Pourtant, un petit pays a réussi à vaincre ses peurs, un petit pays dont l'audace et le talent su s'incarner dans un de ces hommes qui laissent dans l'histoire l'image du visionnaire. Il s'agit, vous l'aurez peut-être reconnu, d'Henri le Navigateur, prince portugais. Christophe Colomb reste attaché dans notre imaginaire aux grandes découvertes. Pourtant, ce ne serait pas une usurpation que de connaître et reconnaître tout aussi bien ce précurseur de la modernité que fut Dom Henrique, né trop tôt pour être un vrai prince de la Renaissance, mort trop tard pour n'être qu'un enfant médiéval. Qui fut ce véritable mythe de l'histoire maritime? Comment cette société médiévale sut-elle accueillir ce grand mouvement de découverte? Ces grandes découvertes furent-elles la conséquence d'une vision religieuse, d'un dessein politique ou bien simplement d'une volonté d'expansion économique? C'est ce que je vous propose de découvrir avec Michel Verger-Franceschi. Michel Verger-Franceschi, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous reçois au micro de Canal Académie pour la deuxième fois. Nos auditeurs peuvent se reporter à l'émission sur la société française au XVIIe siècle que nous avons enregistrée à l'occasion de la sortie de votre ouvrage paru chez Fayard. Alors, vous avez remporté, Monsieur Verger-Franceschi, plusieurs prix de l'Institut, de prix de l'Académie française, un prix de l'Académie des inscriptions et des belles lettres. Et vous venez nous parler de ce personnage, Henri le Navigateur, un personnage que vous avez étudié dans un livre paru en 98, réédité ensuite. Et ce livre a d'ailleurs été traduit, n'est-ce pas, en portugais. Alors, vous êtes un spécialiste de l'histoire maritime et la mer est un mythe, bien évidemment. Et j'ai envie de vous demander, on a l'impression que toute personne qui s'y attache devient elle-même un mythe.
Oui, tout à fait. La mer est un mythe parce que la mer a toujours engendré des peurs phénoménales par rapport à aujourd'hui où nous vivons dans un monde où la mer est parfaitement intégrée parce que les jeunes partent à la mer, font du ski nautique, font de la planche à voile. La mer, par contre, pendant des millénaires, était un monde qui n'était pas du tout intégré à la vie quotidienne, pratiquement jusqu'au naufrage du Titanic au début du XXe siècle, dans les années 1900-1911. La mer était un monde qui faisait terriblement peur. Peur, vous l'avez dit, parce qu'on pensait qu'au niveau d'un certain cap, le cap Borador, l'eau se mettait à bouillir, que les navires qui oseraient par hasard s'aventurer dans ces eaux allaient prendre feu. Donc ces coques de bois, ces coques de chêne ou de résineux, de pin, de sapin, allaient s'enflammer. On pensait qu'il y avait des îles qui étaient des îles aimantées au large de l'équateur et que si un bateau avec sa coque qui était remplie de clous pour riveter les planches les unes aux autres, eh bien, on pensait que la coque allait exploser et que les clous allaient se sauver et que les marins donc allaient tomber à la mer pendant que les aimants des îles allaient attirer toutes les parties métalliques des navires. On pensait qu'en mer, il y avait des monstres absolument terribles. Bon, certains, d'ailleurs, sont toujours existants aujourd'hui, y compris dans les dessins animés, comme les sirènes. Alors, la sirène est une jolie femme avec un torse torse et une poitrine avantageuse et une queue d'écaille. C'est comme cela qu'on la représente dans les dessins animés. Mais il ne faut pas oublier que la sirène est un monstre, que ce n'était pas du tout une femme poisson depuis l'Antiquité. Et que dans Ulysse, la meilleure preuve que ce n'était pas des femmes poissons, c'est que pour se suicider dans Homère, les sirènes se jettent à la mer. C'était des femmes oiseaux. Mais dans les deux cas, poissons ou oiseaux, avec des petites pattes d'oiseaux, un corps de femme et des petites ailes, ce sont avant tout des monstres qui incitent les marins à se jeter à la mer pour les dévorer. Et on trouve au bord des rivages, en Grèce ou ailleurs, donc des sortes d'ossuaires, de cimetières de marins remplis d'os blanchis. Et puis il y a les baleines, il y a le Léviathan, il y a les dragons. Et encore dans les années 1780, à l'époque de Bernardin de Saint-Pierre, eh bien encore en 1780, les Bordelais sont absolument épouvantés en 1784 parce qu'on prétend qu'il y a un troupeau de baleines épouvantables avec des yeux rouges phosphorescents entourés donc de lumières qui sont visiblement des diamants qui vont remonter l'estuaire et qui vont attaquer le port de Bordeaux. Donc la mer est un monde absolument féerique, mais au mauvais sens du terme, c'est un monde qui est peuplé de monstres, de dragons et d'événements qui sont terribles dans un monde chrétien, en particulier le naufrage, parce que quid de la résurrection si tous les marins sombrent et que leur corps est dévoré par les poissons, comme on le savait déjà à l'époque, au moment de la résurrection, comment ces âmes vont pouvoir être réincarnées dans des corps qui ont malheureusement disparu.
Alors, j'en reviens à notre Henri le Navigateur. Que représente-t-il pour les Portugais aujourd'hui, Henri le Navigateur ?
Alors, Henri le Navigateur est vraiment le père des grandes découvertes. Vous avez fait allusion avec raison à Christophe Colomb. Et Christophe Colomb, en 1492, il a un petit peu, si je puis dire, coiffé sur le poteau les Portugais qui s'étaient appliqués grâce à Henri le Navigateur pendant plus de 80 ans à découvrir le monde. Et Henri le Navigateur, qui est né en 1394, est un jeune homme de 21 ans lorsque les grandes découvertes commencent véritablement à partir de 1415 avec son père, João Ier d'Avise, qui est le fondateur de la célèbre dynastie qui est la dynastie portugaise des Avises, et son père, qui est un bâtard, donc João Ier est le fils naturel du feu roi, eh bien ce bâtard a eu besoin des forces vives de la nation portugaise, c'est-à-dire la bourgeoisie, les marins, les pêcheurs, les gens des ports et du littoral. Et il a eu besoin de cette partie de la population pour prendre le pouvoir aux forces légitimes, qui étaient les forces traditionnelles, qui étaient la noblesse et le clergé. Et celle qui devait devenir reine légitime de Portugal en 1383, c'était la petite reine de Castille, qui était une enfant de 10 ans soutenue donc par la noblesse et le clergé. Et João Ier d'Avise a joué le jeu d'une révolution qui est la première révolution nationale, si je puis dire, en Europe au XVe siècle. Et il a joué le jeu de la carte portugaise. Et donc, en s'appuyant sur les gens de Porto, sur les gens de Lisbonne, sur les gens des Algarves, donc dans la région du sud, dans la région de Lagos, il a fait le jeu des ports. Et d'ailleurs, son fils Henri le Navigateur est né comme par hasard à Porto, et lui-même, donc João Ier, a donc donné le feu vert aux grandes découvertes. Et en 1415, il a décidé de s'emparer d'un port marocain qui est le port de Ceuta, qui va être le premier évêché catholique en terre d'islam, qui est érigé en 1420 en diocèse, avec la création d'une cathédrale dès 1416.
Alors nous allons revenir sur tous ces événements, mais à vous entendre, on se doute que Henri le Navigateur fait partie de la mythologie nationale portugaise.
Oui, Henri le Navigateur, dont Henrique, ou l'enfant dont Henrique, a effectivement sa statue. On le voit à Belém, on le voit dans différents endroit. Il a été duc de Viseu. Le musée de la marine de Lisbonne, qui est absolument magnifique, contient énormément de souvenirs, y compris donc des retables, des peintures qui représentent, vous connaissez tous ce fameux tableau où on voit Henri le Navigateur et son petit neveu Alphonse V, donc qui est son neveu, c'est le fils de son frère, le roi Dom Duarte. Et ce tableau a servi d'ailleurs de couverture à ma biographie d'Henri le Navigateur.
Alors, nous allons l'appeler Henri, hein, mais on peut également l'appeler Henrique ou Henrique, Don Henrique. Disons-le tout de suite, c'est plus un organisateur, on dirait aujourd'hui un administrateur, qu'un marin à proprement parler, même s'il participe plusieurs fois à des expéditions. C'est peut-être pour ça qu'il n'a pas la postérité d'un Christophe Colomb.
Tout à fait, tout à fait. Henri le Navigateur, c'est un peu un Henri qui a très peu navigué, puisqu'il n'a pris la mer que trois fois dans une vie qui a été longue. C'est une vie de 66 ans, puisqu'il meurt en 1460, donc à 66 ans, et il ne s'est embarqué que trois fois pour aller au Maroc. La première fois, bon, ça a été un succès en 1415-1416. Les autres fois ont été des fois beaucoup moins glorieuses. En particulier, son frère, appelé l'infant martyr, a été tué par les Marocains et est resté victime donc d'une croisade et mort victime adolescent au Maroc. Donc c'est quelqu'un qui a pu naviguer un petit peu comme Ptolémée, bon, qui était aussi un géographe en chambre. Et évidemment, ça n'est pas Ulysse, ça n'est pas Christophe Colomb. Et là aussi, vous avez raison, qu'il est peut-être moins passé à la postérité parce qu'il lui manque cette dimension physique qu'ont eu un Ulysse ou Christophe Colomb.
Pierre Chenu, que vous citez dans votre ouvrage, utilise le terme d'encombrante personnalité.
Oui, c'est vrai, c'est un personnage très encombrant parce qu'on a un peu l'impression fausse qu'Henri le Navigateur aurait tout fait. Or, en fait, la conquête atlantique, la conquête ilienne en particulier, est bien antérieure à Henri le Navigateur, puisque déjà des rois de Portugal, qui étaient les contemporains de Saint-Louis dans les années donc 1270, plus de deux siècles avant Henri le Navigateur, eh bien, le roi de Portugal, Dom Diniz, qui a été le premier souverain portugais à créer un amiral de Portugal, à la même époque d'ailleurs que l'amiral de France, en 1270, eh bien, Dom Diniz avait déjà planté les collines de Leiria de pins, de façon à doter la flotte portugaise de mâts, de coques, mais surtout de mâts. Et le Portugal s'est lancé, dès les années 1300, dans une conquête d'îles qui ont été les Canaries, qui ont été cette île couverte de forêts et forêts, bois, se dit Madeira en portugais, et donc l'île de Madère, Machico, Funchal, de même que les Canaries, ont été découvertes avant Henri le Navigateur. Et donc Pierre Chenu a raison de dire que c'est une personnalité encombrante parce qu'on a un peu l'impression qu'Henri le Navigateur aurait tout fait, et Michel Mollat du Jourdain avait de son côté également raison comme Pierre Chenu en disant que le peuple portugais, c'est-à-dire les 800 000 Portugais qui vivaient du temps d'Henri le Navigateur, ont partagé les grandes découvertes, ont partagé la réussite portugaise avec l'infant.
Michel Mollat du Jourdain, hein, qui a préfacé la première édition de votre ouvrage, donc paru aux éditions du Felin, Un prince portugais, Henri le Navigateur. Michel Verger-Franceschi, nous nous retrouvons dans un instant.
La maladie d'Alzheimer est un domaine de la recherche qui est en friche. Il reste encore beaucoup à découvrir. Canal Académie vous propose un état des lieux avec professeur Jean-Jacques Auve, spécialiste du vieillissement du cerveau, et le docteur Jean Petitpré, qui est président de la Fondation France Alzheimer. Nous vous proposons également de découvrir cette association France Alzheimer qui œuvre à une meilleure prise en charge de la maladie et vient en aide aux familles. Ces deux émissions sont disponibles sur notre site.
Nous reprenons le cours de notre émission. Je reçois Michel Verger-Franceschi, spécialiste de l'histoire maritime, auteur du livre « Henri le Navigateur, un prince portugais », un livre paru aux éditions du Felin. Alors, nous évoquions la personnalité, enfin le jugement plutôt de Pierre Chenu. Vous, Michel Verger-Franceschi, vous en faites davantage un personnage aux marges, c'est l'expression que vous utilisez. Cette expression renvoie peut-être à son austérité.
Oui, c'est un personnage très austère. On ne lui connaît pas d'épouse, on ne lui connaît pas de maîtresse. C'est quelqu'un qui a eu un peu la vie d'un moine. Et cela peut se comprendre dans la mesure où c'est le fils cadet du roi de Portugal, João Ier d'Avise. Par conséquent, la terre, si je puis dire, le royaume de Portugal, revenait à son père pour commencer, puis à son frère aîné lorsque son père a terminé en 1433 son très long son règne, un règne de 50 années, 1383-1433, et à la mort de ce père commun, c'est son frère aîné, donc Dom Duarte, qui est devenu roi de Portugal jusqu'à ce qu'il soit emporté par la peste en 1438. Et à la mort de son frère, c'est donc son neveu, Alphonse V, qui est devenu à son tour roi de Portugal. Par conséquent, la terre appartenait à son père, à son frère, à son neveu. Et il lui restait donc à lui une autre possibilité, puisqu'il ne pouvait pas régner sur la terre, c'était de s'investir dans un monde alors inconnu, qui a été le monde océanique. Et il est allé s'installer tout à fait au sud du Portugal, donc dans la région de Lagos, avec les marins de l'Algarve, des gens comme Bartolomeo Diaz, et d'ailleurs un enfant de l'Algarve, celui qui a découvert, vous le disiez en introduction, le cap de Bonne-Espérance en 1487, après une longue pérégrination commencée en 1415. Et on parle toujours de Christophe Colomb qui a découvert l'Amérique en 1492, mais il faut bien voir que les Portugais ont mis de 1415 à 1487 72 années pour parcourir la longueur du littoral africain qui n'était pas du tout connu et sur lequel planaient des légendes comme quoi il y avait des sauvages ou des pygmées ou des hommes tout petits qui avaient un pied absolument énorme qu'ils remontaient au-dessus de leur tête pour se protéger donc du soleil comme si c'était un parasol, que ces hommes étaient tous des sauvages, étaient tous anthropophages. Et petit à petit, pendant ces 72 années de découverte, on va distinguer les Africains du Nord, donc les Azenègues, qui vont vivre le long du Sahara, le long du grand désert blanc, le long de régions qui portent toujours, d'ailleurs, en souvenir de ces déserts, des noms tels que le Cap Blanc. Et on va voir, par contre, plus au sud, d'autres populations qui sont estimées pire que les musulmans du Nord, parce que les musulmans du Nord, ils ont quand même un dieu, Allah, ils ont un prophète, Mahomet, alors que les Noirs du sud de l'Afrique, ils sont idolâtres, ils croient dans les arbres, ils croient dans les sources, ils croient dans les pierres, ils sont anthropophages, ils font peur. Et donc, on est à l'époque d'Henri le Navigateur, au moment où on distingue le Cap Blanc du Cap Vert, la Guinée, le Sénégal, et où on va pénétrer avec de petits bateaux qui sont les ancêtres des caravelles et qui sont les barinelles, on va pénétrer à l'intérieur des fleuves comme le Sénégal pour essayer de découvrir un peu la zone intérieure de l'Afrique.
Alors je voudrais tout de même, Michel Verger-Franceschi, revenir aux origines de cette expansion qui est une expansion maritime. Si le Portugal se dirige vers la mer, c'est qu'il y a une raison. Il ne peut plus se diriger vers la terre parce qu'à ses côtés règne la Castille.
Exactement. Donc aujourd'hui, on est toujours surpris que le Portugal ait pu faire autant de découvertes et on emploie l'expression de petit pays. On dit comment se fait-il qu'un pays aussi petit ait pu découvrir l'Afrique et soit arrivé donc en 1498 avec Vasco de Gama jusqu'à Calicut, jusqu'aux Indes. Il faut tout d'abord réfléchir sur cet adjectif petit parce que le Portugal, c'est 800 000 habitants, ça n'est pas beaucoup, c'est l'équivalent de Marseille et même moins aujourd'hui. Mais dans le contexte du XIVe siècle, c'est-à-dire après la grande peste noire du début du XIVe siècle, l'Aragon, ça n'est jamais que 2 millions d'habitants. La Castille, ça n'est que 4 millions d'habitants. L'Angleterre, pas beaucoup plus. Par conséquent, le Portugal n'est pas un royaume si petit que cela dans les années 1400-1415. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que le Portugal est la première nation européenne, la première nation au monde. Et vous avez raison de dire que son expansion donc vers l'Est est bloquée dans la mesure où la Castille et le Portugal ont constitué la première frontière qui existe en Europe dès le XIIIe siècle. Et par conséquent, le Portugal ne pouvant plus s'étendre vers l'Est, il lui restait une possibilité, c'est cette conquête donc vers l'Ouest, cette conquête océanique. Et même si on ne doit pas parler de déterminisme géographique, on ne doit pas le dire notamment aux étudiants, eh bien, il y a tout de même chez les Portugais une volonté, en tant que peuple de marins, d'aller découvrir d'abord des îles parce que les îles sont des repères géographiques dans l'océan et ce sont aussi des garde-manger et ce sont aussi des zones qui procurent des aiguillades, c'est-à-dire de l'eau. Et ces marins portugais, qu'ils soient pêcheurs, qu'ils soient navigateurs, qu'ils soient explorateurs, eh bien, ils ont besoin d'îles pour aller trouver des lièvres, pour aller trouver des chèvres, des moutons sauvages, du poisson, des phoques. Et par conséquent, la première des conquêtes a été une conquête ilienne. Ensuite, ils ont eu peur de s'éloigner de la côte africaine, parce qu'on ne connaissait pas les alizés. Et donc, si on savait descendre du Portugal, de Lisbonne, vers le sud...
On ne savait pas remonter.
On ne savait pas remonter. Et il est évident qu'un bateau du XVe siècle, ça n'est pas le TGV d'aujourd'hui. Et que si les vents vous poussent pour descendre, eh bien, à la station suivante, ils ne vous poussent pas dans l'autre sens pour remonter.
Nous ne sommes pas dans une navigation en hauturière, mais bien dans, ce qu'on appelle le cabotage.
On est tout à fait dans le cabotage. Et les Portugais ont donc inventé cette navigation dont a beaucoup parlé Pierre Chenu, bon, qui est la fameuse volta ou la double volta, c'est-à-dire ils se sont éloignés des côtes du Portugal pour trouver des vents qui les repoussaient vers le Portugal et qui sont les alizés. Et en 1500, eh bien, à force d'aller chercher des alizés de plus en plus vers l'ouest, ils ont cogné en quelque sorte un pays. Et ce pays, c'est le Brésil. Et cette découverte a été, avec Cabral, une découverte quelque part fortuite.
Alors je vais rester en Europe. Vous allez me dire que je tiens absolument à vous freiner dans votre progression maritime. Mais la mer, vous l'avez dit, hein, c'est le Portugal est un peuple de marins. La mer est étroitement liée au pouvoir. João, le père d'Henri le Navigateur, arrive au pouvoir grâce aux gens de mer. Il y a un autre facteur qui est très important dans la motivation de l'expansion, c'est le facteur religieux. Vous évoquiez tout à l'heure la prise de Ceuta. La prise de Ceuta entre dans le cadre de ce qu'on appelle la croisade, tout simplement.
Tout à fait. Aussi bien en 1415 qu'en 1457-58, avec les fils de João Ier, on peut parler de croisade, comme vous le faites à l'instant, et on peut en parler d'autant plus qu'il y a un mythe, à nouveau, récurrent dans l'histoire et dans l'histoire maritime, c'est celui de ce fameux prêtre Jean qui habiterait quelque part vers l'Éthiopie et qui serait une sorte de souverain, de moine-soldat, de moine-souverain qui vivrait au milieu de splendeurs extraordinaires avec des vasques de cristal, des pierres précieuses, des rubis, des émeraudes. Et on peut penser, mais ça n'est qu'une supposition, que João Ier d'Avise aurait eu une vision déjà géostratégique du monde qui serait tout à fait exceptionnelle, qui préfigurerait celle d'un Richelieu donc au XVIIe siècle. Il aurait voulu peut-être tendre la main à ce prêtre Jean, souverain chrétien, dans des régions qui seraient vers le Nil, vers l'Éthiopie, et qui ont été très difficiles pendant deux ou trois siècles à situer. Et par conséquent, il a pu penser qu'en descendant vers le sud, c'est-à-dire Ceuta, puis la Guinée, le Sénégal, etc., eh bien, on allait contourner l'Afrique. Et cette Afrique qui, lorsque vous regardez les planisphères de Toscanelli, par exemple, dans les années 1394, cette Afrique qui avait une forme, si je puis dire, de grosse pomme de terre et qui n'était pas très étendue du nord au sud. Et lorsque Henri le Navigateur est mort en 1460, après pratiquement 50 ans d'efforts maritimes, c'est terrible de penser que cet homme est mort sans voir l'aboutissement de son œuvre, puisque l'Afrique n'est pas contournée. Et elle ne sera contournée que, non pas sous son neveu Alphonse V, mais sous son petit-neveu João II d'Avise, arrière-petit-fils de João Ier. Et il a donc fallu quatre générations, de 1415 à 1487, pour contourner enfin ce continent africain qui, à peu près au milieu du continent africain, a à nouveau une côte qui est nord-sud, ce qui a été épouvantable pour les marins portugais qui croyaient arriver vers les Indes, voire vers l'Éthiopie, beaucoup plus rapidement. Or, 1415-1498 Calicut, cela fait quand même, pas tout à fait un tour du monde d'ailleurs, mais cela fait une conquête de l'Afrique jusqu'aux Indes en 83 ans.
Alors, il y a cette part religieuse, peut-être une parenthèse sur la religiosité d'Henri le Navigateur, elle est importante, c'est un personnage très pieux.
C'est un personnage extrêmement pieux. Bon, nous sommes au XIVe, XVe siècle. C'est le fils donc d'une princesse de Lancastre, Philippa de Lancastre, qui était une femme également très pieuse, tout en élevant ses enfants au milieu des légendes arthuriennes, notamment. Et Henri Navigateur est un personnage très creux, très, très pieux, qui est le grand maître de l'ordre du Christ. Cet ordre qui est un héritage donc de l'ordre des Templiers, qui serait l'une des branches donc de l'ordre du Temple. Et on le représente souvent avec cette croix de l'ordre du Christ, que l'on retrouvera d'ailleurs sur les caravelles assez souvent, sur les maquettes. On voit souvent cette croix rouge sur la grande voile carrée des caravelles du XVe siècle. Et cet ordre du Christ a permis d'ailleurs à Henri le Navigateur d'avoir des fonds qui ont été nécessaires à la fois pour payer des capitaines, pour payer des marins, même s'ils n'étaient pas très nombreux, ils étaient une vingtaine à peu près sur chacun des barinelles aux ordres d'un capitaine. Eh bien, il a utilisé les ressources financières de l'ordre du Christ, de couvents comme celui de Thomar en particulier, de façon à financer les expéditions et à construire ces petits bateaux. Et alors, on a même prétendu qu'au moment de sa mort, il portait les stigmates comme le Christ et que la croix de l'ordre du Christ serait apparu sur sa poitrine au moment de sa mort en 1460.
C'est un chroniqueur, hein, je crois, qui le compare à saint François.
Oui, il a eu la chance d'avoir un hagiographe et un excellent chroniqueur en la personne de Gomez de Zurara. Et Zurara a écrit cette chronique de Guinée en 1446, c'est-à-dire qu'il l'a écrite jusqu'au moment où la découverte portugaise a été une véritable découverte qui fait honneur aux Portugais. Et il s'arrête brutalement en 1446 parce qu'il est gêné avec des accents un petit peu d'ailleurs qui
humaniste.
Sont des accents à la Montesquieu, c'est tout à fait étonnant. Et il est gêné en 1446 de voir les premières ventes de noirs. Jusqu'à présent, on a capturé des noirs essentiellement pour en faire des prêtres au Portugal, pour leur apprendre la religion. On les a évangélisés. On les a également capturés pour en faire des interprètes, parce qu'il faut bien voir que les Portugais et les Noirs ne se comprenaient pas du tout. Mais en 1446, on a la première vente. Et à partir de ce moment-là, les Portugais, certains du moins, sont un peu gênés de la tournure que prennent les événements.
Alors nous allons revenir bien évidemment sur cette question de l'esclavage. Je voudrais tout de même vous poser une question à laquelle vous répondrez, Michel Verger-Franceschi, après cette deuxième pause. Que représente en fait la prise de Ceuta ? Nous nous retrouvons dans un instant. Nous reprenons le cours de notre émission. Je reçois Michel Verger-Franceschi qui évoque pour nous ce XIVe et ce XVe siècle portugais dominé par l'expansion maritime du Portugal. Nous avons vu donc qu'en 1415 a lieu cette prise de Ceuta qui rentre dans le cadre de l'esprit de croisade. Et ce qui est appréciable et ce que vous dites dans votre livre, c'est qu'il y a en fait par cette prise, il y a en quelque sorte un partage des connaissances. C'est-à-dire que les Portugais découvrent des choses sur les techniques de navigation et on peut parler d'une sorte d'échange culturel ?
Oui, tout à fait. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si le Portugal a ouvert la voie des grandes découvertes. C'est que le Portugal constitue dans le monde de l'époque une véritable escale, aussi bien du côté européen que du côté musulman. Du côté européen, les grands marins sont des marins soit génois, les Zouzodimar, par exemple, qui vont passer d'ailleurs en 1457 au service d'Henri le Navigateur. Ce sont des Vénitiens comme Cadamosto qui passent également dans les années 1450-55 au service d'Henri le Navigateur. Et ces grands génois donneront un jour Christophe Colomb, dont on prétend à tort qu'il est né à Calvi, alors qu'il est tout à fait génois. Mais il est vrai que sa maison corse de Calvi a été ensuite propriété des Colomb, puisque son arrière-arrière-petit-fils s'est effectivement marié à Calvi. Et par conséquent, ces marins génois, ces marins vénitiens, ces marins marseillais, eh bien, lorsqu'ils font du capotage en Méditerranée et qu'ils passent par le détroit de Gibraltar, qui a été traversé pour la première fois en 1293-1297, eh bien, ils font escale au Portugal. Et donc, le Portugal est un lieu d'échange culturel constant entre les savoirs vénitiens, les savoirs génois, les savoirs marseillais, c'est-à-dire les savoirs méditerranéens, et puis les savoirs des marins du Nord qui arrivent de Londres, qui arrivent de Bruges, et qui, eux aussi, apportent des draps des Flandres, par exemple, et des produits comme autrefois l'étain de Cornouailles du temps d'Ulysse, et eux aussi s'arrêtent au Portugal avant d'entrer en Méditerranée. Mmh. Et en plus, en 1415, eh bien, la découverte de Ceuta fait que les savoirs arabes, les savoirs musulmans, la boussole, l'invention chinoise qui datait de plus de 200 ans avant la naissance du Christ, eh bien, la connaissance des vents, la connaissance des mathématiques, l'arithmétique, la boussole, les savoirs des marins musulmans sont passés eux aussi au Portugal. Et donc le Portugal est véritablement un creuset européen entre les différentes navigations connues du moment.
Est-ce que les techniques maritimes, de fait, évoluent à cette époque ? Est-ce qu'on assiste à une révolution maritime dans la construction des bateaux, dans la façon de faire ou de considérer les voiles ?
Oui, tout à fait. Bon, on oppose généralement deux mondes maritimes. Le monde de la Méditerranée avec des voiles réputées latines, c'est-à-dire triangulaires, et puis le monde de l'Atlantique avec des voiles réputées carrées, comme en Angleterre ou dans les Flandres. Il est évident que le Portugal, aujourd'hui on emploierait le terme d'interface, bon, se situe tout à fait à l'interface entre les deux mondes et par conséquent les techniques de navigation évolue. Quand on regarde les premiers bateaux de 1415 qui sont partis faire la conquête de Ceuta, ce sont de petits barinelles où vous avez très peu d'hommes à bord, où il n'y a pas encore trois mâts comme sur les caravelles. Et les caravelles de Christophe Colomb en 1492, c'est un petit peu comme dans le nucléaire aujourd'hui lorsqu'on parle de troisième ou de quatrième génération. Eh bien, pour les caravelles de Christophe Colomb, ce sont aussi des caravelles de troisième ou quatrième génération. Entre la caravelle qui permet de découvrir Madère et d'aller à Madère dans les années 1446 et la découverte de l'Amérique en 1492, eh bien, en 50 ans, la caravelle a considérablement évolué. Elle a grossi, même si Christophe Colomb n'a à bord de la plus grosse des caravelles, la Santa Maria, que 39 hommes à bord et 88 en tout lorsqu'on ajoute la Santa Maria, la Nina et la Pinta. Eh bien, même si ces bâtiments sont restés petits, on a des techniques de navigation qui évoluent, tout simplement parce qu'en Méditerranée, par exemple, il y a peu de forêts, il y a peu de bois. Et donc, on va construire en jointant les planches l'une contre l'autre. Et les planches ne se recouvrent pas. D'ailleurs, dans les pays comme le Sahara, où il n'y a pas de forêt, eh bien, les musulmans se trouvent privés des grandes découvertes, un peu par manque de bois. Par contre, dans les pays du Nord, en Baltique, en Moscovie, puisqu'à l'époque on dit Moscovie et non pas Russie, en Angleterre, en Hollande, etc., on va construire un petit peu comme les toitures en ardoise, c'est-à-dire que les planches de bois se recouvrent sur quelques centimètres. Et on a donc deux formes de construction navale tout à fait opposées en Méditerranée et en Baltique, Manche, mer du Nord. On a des voiles tout à fait opposées, mais on s'aperçoit, le dictionnaire d'Augustin Jalles, qui est un excellent dictionnaire du XIXe siècle sur la construction navale et les méthodes de navigation, montre bien que le vocabulaire a hérité de pratiques et que le vocabulaire s'est considérablement enrichi grâce à des échanges de langues entre le monde arabe, les Anglais, les Hollandais, entre les différentes puissances maritimes.
Alors, Henri participe à tout ce mouvement et ce que vous présentez dans votre ouvrage, c'est qu'il décide d'aller dans le sud du Portugal, à Sagres, et il tient à faire de Sagres une petite Venise.
Oui, tout à fait. Et Henri navigue...
Avec ce que cela suppose, évidemment, de rayonnement et culturel et politique.
Exactement. C'est un petit peu, si je puis dire, le directeur ou le fondateur d'une sorte de CNRS maritime contemporain. Donc, il a réuni à Sagres, il a réuni les marins compétents de son temps, qui étaient des gens susceptibles de partir tous les étés, puisque l'hiver, on navigue très, très peu. Donc, c'est surtout à partir d'avril-mai que l'on quitte Lagos, que l'on quitte le cap Saint-Vincent, qui doit son nom aux reliques de Saint-Vincent, qui serait venu s'échouer là au Moyen-Âge. Et donc, ces marins quittent les Algarves, c'est-à-dire une région qui a été longtemps occupée par les musulmans, d'où le nom d'Algarve d'ailleurs, c'est-à-dire les jardins de l'Ouest. Eh bien, à partir de cette région, la région de Lagos, la région de Sagres, il y a une sorte de CNRS naval où il y a donc des roses des vents, où il y a des portulans, c'est-à-dire des premières cartes. La première carte maritime est antérieure à Henri le Navigateur. Elle a été embarquée à bord d'un bâtiment qui s'appelle le Paradis. Elle a été montrée par un Génois d'ailleurs, par un Doria, à Saint-Louis lorsqu'il partait d'Aiguemorte pour les croisades. Mais à Sagres, on commence à fabriquer des portulans, on commence à fabriquer des instruments, des astrolabes en particulier, des boussoles, des rames pour les bâtiments qui sont presque toujours des voiliers, mais qui sont aussi munis de rames, comme les galères qui continuent à exister pour longtemps en Méditerranée jusqu'en 1748 et en Baltique encore plus jusqu'en 1830.
Alors il y a ce rôle culturel, mais Henri a également un rôle politique, hein, puisque João, son père, tient à ce qu'il protège Ceuta.
Oui, bien sûr, il y a un rôle politique, surtout que l'on est dans un contexte de guerre religieuse qui est en train de disparaître, mais de disparaître très très lentement entre le monde chrétien et le monde musulman, puisqu'il faut bien voir que lorsque Henri le Navigateur meurt en 1460, les musulmans sont encore présents dans la péninsule ibérique où ils se sont installés du temps de Tariq, qui a donné son nom à une petite colline que l'on appelle un djebel, donc le djebel Tariq, c'est-à-dire Gibraltar, la montagne de Tariq, donc au sud de la péninsule ibérique. Et si les musulmans sont arrivés avec Tariq en 711 et s'ils ont été repoussés à Poitiers par Charles Martel en 732, comme on nous le disait autrefois dans tous nos ouvrages du secondaire, les Malé-Isaac en classe de 5e, eh bien ça n'a pas été le cas pour la péninsule ibérique qui n'a pu repousser les Ibériques qu'en 1492. Et donc le Portugal, lui, a fini sa reconquista plus tôt. La cathédrale de Lisbonne date de 1147, mais Grenade, du côté castillan, n'est tombée aux mains des catholiques qu'en 1492. Et donc, on est dans un contexte encore de guerre religieuse et on comprend à ce moment-là que João Ier d'Avise ait voulu mettre les pieds, donc en terre musulmane, à Ceuta pour compenser un petit peu la présence musulmane qui se faisait toujours sentir à Grenade pour encore presque un siècle.
Est-ce que Henri, puisque c'est également un militaire, est-ce qu'il ne rejoint pas le mythe du chevalier, un peu comme Godefroy de Bouillon, avec la même religiosité et également tout simplement le soldat du Christ, puisqu'il va participer au combat, et notamment le combat à Tanger, qui lui sera à la défaveur des Portugais.
Tout à fait. Donc c'est un soldat du Christ, c'est un combattant de la foi, c'est un combattant tel qu'ils existaient au moment des croisades et tel qu'il existe encore donc au XVe et même plus tard parmi les rois de Portugal postérieurs. Il y a le fameux Don Sébastien qui en 1578 va encore mourir dans une sorte de croisade, donc à nouveau sur le sol marocain contre différents souverains du Maroc. Et effectivement, donc Henri le Navigateur est tout à fait un prince chrétien, un soldat chrétien, et à Tanger, son frère, l'infant Ferdinand ou Fernand, va effectivement être prisonnier donc des musulmans qui vont le garder prisonnier dans des conditions de détention tensions assez terribles et puis qui mettront son corps à dessécher sur les remparts de Tanger. Et Henri le Navigateur se sentira très coupable de la mort de ce jeune frère et il fera ramener assez subrepticement les restes de ce frère dans des grandes jarres d'huile et on ramènera ainsi la dépouille de ce jeune enfant mort à 16 ou 17 ans, appelé l'enfant martyr. On la ramènera donc sur le sol natal au Portugal.
Quelle est la perception des contemporains d'Henri le Navigateur ?
La perception n'est pas très très importante, si je puis dire, parce qu'évidemment, on est à une époque où l'imprimerie commence à se diffuser lentement, mais même la perception des grandes découvertes comme celle de 1492 mettra un certain temps donc à se répandre dans un monde autre que celui des élites. Il est évident qu'Henri le Navigateur a auprès de lui des marins, a auprès de lui des capitaines de haut niveau, a auprès de lui des cardinaux, des hommes de talent, d'où d'ailleurs sa devise « talent de bien faire », et que ce sont ces élites qui maîtrisent à ce moment-là la connaissance. Quelqu'un comme Christophe Colomb lira « L'Imago Mundi », par exemple, du cardinal d'Ailly. Mais ensuite, au niveau populaire, la perception des grandes découvertes est assez difficile. Le premier globe, qui est celui de Martin Béheim, est celui de 1492. Donc, il est quand même postérieur de 32 ans à la mort de Christophe Colomb. La découverte de la longitude, par exemple, la mort d'Henri le Navigateur, la découverte de la longitude est encore ignorée pour plus de trois siècles. Il faut attendre les années 1770, il faut attendre Bougainville, James Cook, pour qu'on connaisse la longitude.
Mais Henri reste très marqué, vous le disiez tout à l'heure, par la mort de son frère, hein, c'est bien cela.
Oui.
Il est marqué par cette mort. Tanger est un échec. Ses contemporains le jugent assez durement.
Oui, assez durement. Et la postérité aussi, peut-être à cause de son rôle dans ce qui n'est pas la traite négrière à l'époque, qu'on ne peut pas qualifier la traite négrière ou d'esclavage négrier, mais un peu en tant que précurseur, malheureusement, de ce qui va devenir la traite. Et on voit bien que quelqu'un comme Zurara est très gêné à partir de 1446 de ses importations de noirs, même si ces importations sont relativement limitées, puisque pour l'ensemble du règne, entre guillemets, du règne naval d'Henri le Navigateur de 1415 à 1460, il n'y a eu que 900 noirs transportés sur le sol portugais. Donc on est encore très très loin des chiffres d'ailleurs très variables de la traite négrière entre 8 ou 20 millions de noirs donc, qui partiront ensuite pour les colonies, les Antilles, la Martinique, la Guadeloupe, etc. Mais on voit que Zurara est très gêné, il a cette très belle phrase qu'on pourrait trouver sous la plume de Montesquieu, c'est-à-dire « Ne sommes-nous pas tous les fils d'Adam ?» Et donc, il est très ennuyé de voir les Blancs commencer à vendre les Noirs et à séparer en particulier les maris des femmes et les parents des enfants, ce qui sera interdit beaucoup plus tard, mais en 1685 uniquement en France, par le fameux Code noir dont la paternité revient à Colbert et qui passe pour un code humanitaire et humaniste, puisqu'on ne peut plus vendre les familles séparément.
Nous sommes tous fils d'Adam. Il s'agit d'un sous-titre, d'un des chapitres de votre ouvrage, Henri le Navigateur, un prince portugais au XVe siècle, paru aux éditions du Félin. Michel Verger-Franceschi, nous nous retrouvons après cette dernière pause.
Partez à la découverte du château de Versailles. Dans un programme spécial, Canal Academy vous offre une visite privée de Versailles avec Mathieu Davina, historien, chercheur au centre de recherche du château. Vous serez guidé dans le grand appartement du roi, dans l'appartement de l'étiquette, dans celui de la reine et dans les lieux de confort et d'hygiène de la résidence royale. Vous seront également présentés le hors-série du Figaro sur la Galerie des Glaces dont la restauration fait événement et le livre de Jérôme Delagorce sur les fêtes à Versailles. Retrouvez Versailles au temps de sa splendeur avec les émissions originales spécialement réalisées pour vous par la rédaction de Canal Academy et disponibles dans notre médiathèque.
Nous entamons la dernière partie de notre émission consacrée au Portugal au XVe siècle et tout particulièrement à cette figure marquante, Henri le Navigateur, un prince portugais. Je reçois Michel Verge Franceschi, professeur d'histoire, spécialiste de l'histoire maritime et auteur de l'ouvrage Henri le Navigateur, paru aux éditions du Félin. Alors, avant cette pause, vous évoquiez l'Afrique et les prémices de la traite négrière. Les Portugais ont aussi, dites-vous, un regard d'ethnologue.
Oui, ils ont un regard d'ethnologue parce que on a découvert des peuples sur lesquels on ne savait rien, sur lesquels circulaient des légendes dont on parlait au début de l'émission, donc des Noirs qui auraient eu un pied géant qui leur servait de parasol au-dessus de la tête, bon, des Pygmées, comme plus tard, donc au niveau de la Terre de Feu, il y aura également des Patagons, il y aura des géants de plus de 2 mètres, donc là, il y aurait eu des nains qui auraient eu 80 cm ou 1 mètre, et donc les Portugais sont à l'origine de la découverte du monde, et il faut bien insister, ça, il faut bien le dire en hommage au peuple portugais, sans le moindre racisme. Si on est allé chercher des Noirs, c'est parce qu'on est au lendemain de la grande peste noire, donc de 1328, qui a tué entre 30% et 50% des Occidentaux. 50% de l'Europe a disparu. Le roi d'Aragon est mort d'ailleurs lui-même de la peste noire, donc de 1348, je crois que j'ai dit 28, 1348. Il est mort en 1350, puisque cette peste a ravagé donc tout le bassin méditerranéen pendant 4 ans, donc de 1348 à 1352. Et le Portugal donc manque de bras, manque d'hommes, et on est allé chercher sans aucun racisme des hommes qui pouvaient travailler dans un pays où on parlait pour la première fois d'économie de marché et non plus d'une économie simplement vivrière. C'est-à-dire que le Portugal a abandonné la culture du blé très tôt pour la remplacer par la culture du vin, le Porto. Le Porto naît à cette époque-là, donc Henri le Navigateur est né à Porto en 1394, au moment où on commence à planter les fameuses vignes de Porto jusqu'à aujourd'hui. Et par conséquent, on manque de personnel pour faire les vendanges, pour planter des vignes. Et on est donc allé chercher cette main-d'œuvre et le pays s'est très rapidement métissé. Il n'y a pas eu une volonté de tenir les Noirs en esclavage ou en servage. Il y a eu un métissage chez les Portugais qui reste valable jusqu'à aujourd'hui.
On peut parler d'intégration ?
Oui, on peut parler d'intégration, d'autant plus qu'il n'y a pas eu d'opposition religieuse de la part des Noirs qui ont été baptisés, évangélisés. Ça sera aussi le cas en France plus tard, où on a d'ailleurs même un Noir qui porte le prénom d'Armand, puisqu'il était le filleul de Richelieu qu'il avait fait ramener au Louvre.
Alors, à vous entendre, on retient les motivations politiques, les motivations religieuses, mais il y a aussi les motivations économiques. Nous n'avons pas du tout évoqué l'or, et pourtant l'or fait partie de ces grandes motivations qui amènent ces Portugais si loin.
Bien sûr, parce que pendant des siècles, l'or venait du Soudan et donnait lieu à une troque que l'on appelait la troque muette entre les peuples noirs, les peuples du centre de l'Afrique qui possédaient donc de la poudre d'or qu'ils mettaient en tas au centre de l'Afrique dans des endroits bien définis et les Azenègues qui venaient eux du nord leur portaient du sel puisque les Noirs eux n'avaient pas à l'intérieur du continent de sel et on faisait donc deux montagnes égales en hauteur, en dimension, et les deux populations, Noirs et Azenègues, se sont ignorées pendant à peu près 7 siècles. Et donc les Noirs prenaient le tas de sel et les Azenègues prenaient le tas d'or. Et cet or remontait vers les côtes du Maghreb, remontait notamment vers ces tas. C'est pour ça que, est-ce qu'on peut dire que les motivations religieuses avaient le pas sur les motivations économiques, ça c'est très difficile de savoir ce qui était le plus important pour les hommes de l'époque. Pour Christophe Colomb, c'est pareil. Christophe Colomb va aller découvrir l'Amérique parce que Isabelle de Castille vient de mettre enfin les pieds catholiques, si je puis dire, à Grenade. Et dans la foulée, se pensant investie d'une mission internationale d'évangélisation, elle a permis à Christophe Colomb d'aller conquérir l'Amérique quelques semaines après la chute de Grenade. Donc il y a des motivations économiques, qui sont cette conquête de l'or, cet or qui partait vers Gênes, qui partait vers Venise, qui partait vers Constantinople, et que les Portugais voudraient prendre aussi à leur profit, de même que le Maroc est un gros producteur de blé, et à partir du moment où le Portugal se lance dans la culture de la vigne, il manque de blé, et donc Ceuta, route de l'or, route du sel, est aussi la route du blé.
Alors, dans votre conclusion, Michel Verger-Franceschi, vous abordez cette question, ce débat que vous jugez comme un faux débat, la séparation du personnage Henri, navigateur, des Portugais qui, on l'a vu au cours de cette émission, n'a absolument pas lieu d'être.
Bien sûr, c'est un faux débat. Il est toujours très difficile de dissocier un homme de l'époque de ses contemporains. Il est évident que le règne de Louis XIV existe grâce à La Fontaine, à Racine, à Boileau, à Corneille et aux grands hommes de son temps. Il est évident qu'Henri le Navigateur existe grâce à Zarqueau, grâce aux capitaines marins, grâce aux marchands, grâce aux armateurs, grâce à toutes ces femmes qui faisaient des salaisons à Lisbonne, ce qui fait qu'on appelait d'ailleurs les habitants de Lisbonne les marchands de tripes, parce que la bonne viande partait sur les bateaux avec des couches de sel de façon à permettre aux marins portugais de se nourrir pendant la longueur de leur campagne, pendant 3 ou 4 mois. Et il est évident que le prince et que les marins ne forment qu'un tout. Ils forment un ensemble et on dit l'époque d'Henri le Navigateur, comme on dit le siècle de Louis XIV ou l'époque de Richelieu. Il y a un moment où l'homme propose à tout un peuple de le suivre dans un combat, dans une lutte, dans une espérance. Et Henri le Navigateur a représenté cette lutte, ce combat, cette espérance.
Alors vous utilisez le terme de combat, de lutte, cela renvoie naturellement à la violence. Nous vivons dans une époque violente qui est un peu le reflet de cette peur. Vous utilisez même le terme de choc de civilisation dans votre conclusion.
Tout à fait, parce que aujourd'hui on parle beaucoup de racisme, mais il est évident qu'il vaut mieux parler, pour l'époque du moins, de choc de civilisation. Parce que lorsque vous avez 20 Portugais qui débarquent d'un barinel, ils sont à peu près 20 à 30 à bord. Donc on ne laissera jamais le navire tout seul parce qu'on a peur de se le faire prendre par quelqu'un d'autre. Donc lorsque vous avez 30 Portugais à bord, il y en a 15 qui gardent le bateau en rade et il n'y a que 15 Portugais qui descendent à terre. Et donc ces 15 Portugais, ils vont dans un village de Noirs où il y a 200, 250 Noirs. Donc la peur, elle est égale. Du côté des Noirs qui voient arriver des gens qu'ils ne connaissent absolument pas à partir de bateaux munis parfois d'armes à feu, de bombardes, de couleuvrines, alors qu'ils n'ont que des javelots, mais la peur est identique. Et il y a effectivement une opération qui est tout à fait condamnable, qui est la capture des Noirs sur le sol africain par ces Portugais. Mais de l'autre côté, la violence est tout à fait égale. Moi, j'ai des barinelles, j'ai des petites caravelles qui remontent parfois avec simplement 2 adolescents portugais donc d'Afrique vers Lisbonne, parce que les 25 ou 28 autres Portugais qui étaient avec eux à bord ont été tués à coups de sagaie, à coups de javelot, parce que ces javelots et ces sagaies sont des armes empoisonnées et qui constituent donc des armes tout aussi redoutables que les couleuvrines ou les bombardes des Portugais. Et donc il y a un vrai choc de civilisation entre 2 populations, une blanche et une noire, qui ne se connaissent pas du tout, qui n'ont pas les mêmes pratiques, qui n'ont pas les mêmes dieux, qui n'ont pas les mêmes références, qui n'ont pas les mêmes religions et qui surtout ne se comprennent pas. D'où la volonté des Portugais de ramener régulièrement, pas beaucoup, mais 2 ou 3 Noirs dans les premières expéditions, celles antérieures à 1435-1440 à peu près, de façon à en faire des interprètes qu'ils réamènent ensuite en Afrique ou à en faire des prêtres de façon à amener l'évangélisation, parce que ce qui choque beaucoup les Portugais, et ça choquera aussi beaucoup les Castillans ensuite auprès des Indiens, c'est évidemment l'anthropophagie. Anthropophagie qui, du reste, se pratique aussi en Europe jusqu'au XVIe siècle. J'ai beaucoup travaillé sur un mercenaire corse qui est Sampiero Corso, donc qui est tué en Corse en 1567, et des lansquenets allemands mangent Sampiero Corso en grande partie parce que l'anthropophagie est un moyen d'acquérir la force du combattant qui vient d'être tué. Et quelqu'un comme Sampiero, qui avait été un mercenaire redoutable, colonel de François Ier, mort à l'âge de 70 ans, eh bien, il avait une force dont on voulait s'emparer. Et les tribus noires ou les tribus indiennes, eh bien, faisaient des vaincus, assez souvent, des prisonniers qu'ils dévoraient en partie pour acquérir la force de l'adversaire.
Il existe un paradoxe sur cette question de peur, puisque vous écrivez en 1460, Enrique Henri, donc le navigateur, ne meurt pas seul. Avec lui, s'éteint un pan entier de l'histoire humaine, celui des peurs médiévales.
Oui, celui des peurs médiévales, parce que la mer, si je puis dire, est en train peu à peu de se civiliser. C'est-à-dire que la mer, qui est un véritable bestiaire au Moyen-Âge, est en train de devenir un monde connu et on va ramener d'Afrique non pas des dragons, non pas le Léviathan, non pas des monstres aux yeux phosphorescents, mais on va ramener des pieds d'éléphant. Les premiers pieds d'éléphant, c'est Henri le Navigateur qui les fait importer à Lisbonne. La population et la cour sont stupéfaites devant ses pieds de pachyderme énorme qui ne peut pas prendre passage sur une caravelle parce qu'il la ferait chavirer. Et Henri le Navigateur est tellement stupéfait que ses pieds d'éléphant sont envoyés jusqu'à Bruges à sa sœur, qui est la mère de Charles le Téméraire, qui va donc découvrir ses pieds.
Il envoie même des lions.
Il envoie des lions et des femmes, des lions, si je puis dire. On ne dit pas des lionnes à l'époque, on dit des léonesses. Et on amène donc des léonesses. Donc, et ceci va enrichir les premières ménageries qui vont naître un siècle plus tard. C'est François Ier qui, au début du XVIe siècle, va demander donc, aux Tunisiens, par exemple, au Bé, de lui envoyer des girafes, des léonesses, des tigres, etc. Et on découvre les tortues de mer à cette époque-là. Et donc, la faune, la flore, les perroquets que les Portugais ramènent en quantité, ils ramènent jusqu'à 600 perroquets sur leurs bâtiments qu'ils vendent ensuite au Portugal, eh bien, tous ces animaux sont découverts et commencent à fasciner les Européens. Et on verra, donc, au siècle suivant, Henri II et Catherine de Médicis assister à un défilé d'éléphants dans les rues de Rouen.
Toute œuvre, Michel Verger-Franceschi, a son actif et son passif.
Oui, oui. Je crois qu'il ne peut pas y avoir, pour quel que soit l'individu, une œuvre qui soit totalement positive ou totalement négative. Il est évident que Henri le Navigateur a été l'homme d'une époque qui a vu un choc de civilisation avec ce que cela comportait de douloureux pour les peuples découverts.
Eh bien, merci beaucoup d'être revenu au micro de Canal Académie. Je rappelle les références de votre ouvrage, Un prince portugais, Henri le Navigateur, paru aux éditions du Félin. Donc Michel Verger-Franceschi, professeur d'histoire, spécialiste de l'histoire maritime, que nous retrouverons au micro de Canal Académie pour évoquer avec nous à la rentrée le corail en Méditerranée. Merci beaucoup et à très bientôt.
Merci à vous.